Bonjour à tous. Le débat sur l'immigration se tiendra aujourd'hui à l'Assemblée nationale, voulu par Emmanuel Macron. C'est un débat à haut risque pour la majorité très divisée sur le sujet. Alors que l'opposition de droite réclame des actes, à gauche on dénonce une forme d'instrumentalisation du thème de l'immigration, une volonté de faire du pied à l'extrême droite. Après l'attaque de la préfecture de police de Paris, Christophe Castaner a admis hier des failles dans le suivi de l'assaillant qui avait montré des signes de radicalisation en 2015 et dont l'épouse a été libérée hier après 3 jours de garde à vue. Le ministre de l'Intérieur, sous le feu des critiques de la part de l'opposition de droite et d'extrême droite, a exclu toute démission. Il a reçu hier le soutien du Premier ministre Édouard Philippe qui a annoncé également la mise en place de 2 missions d'évaluation des agents du renseignement. La manif pour tous était dans les rues à Paris hier contre l'extension de la PMA, la procréation médicalement assistée, à toutes les femmes. Au sein d'un collectif réunissant 22 associations, ces organisateurs ont réuni 74 500 personnes selon le comptage réalisé par le cabinet Occurrence, mandaté notamment par Radio France, loin des manifestations massives d'il y a 7 ans contre le mariage pour tous. Au Portugal, les socialistes sont arrivés en tête hier pour les élections législatives. Une large victoire selon les résultats quasiment définitifs. La formation d'António Costa, Premier ministre sortant, a récolté près de 37% des suffrages et disposera d'au moins 106 sièges sur 230 au Parlement. Élections législatives aussi en Tunisie hier, marquée par une très forte abstention. Seulement 41% de taux de participation selon les premières estimations. Ce sont les islamistes modéré d'Ennahda et le parti du mania des médias Nabil Karoui, candidat à l'élection présidentielle toujours en prison, qui arriverait en tête. Et puis une semaine d'action pour exiger des actions rapides contre le changement climatique, notamment dans 60 pays, semaine portée par l'organisation Extinction Rebellion, née il y a un an en Grande-Bretagne, qui prône la désobéissance civile non violente pour se faire entendre.
10 minutes par semaine pour comprendre un échec. Guillaume Herner.
Superfail, le magazine de l'erreur, parce que l'on a toujours au moins une bonne raison de se planter. Un échec analysé chaque semaine, Superfail, c'est à podcaster tous les lundis, sauf si ça plante.
Superfail, Guillaume Herner, en podcast et en podcast seulement sur franceculture.fr. Comment se propagent les complots imaginaires ? Mécanique du complotisme, en podcast original. La série se poursuit avec les instructions secrètes, le complot qui visait les jésuites. Ils agiraient dans l'ombre, déclencheraient les guerres, manipuleraient les rois.
Exciter des guerres pour avoir occasion de les apaiser et d'en être récompensés par des bénéfices et des dignités ecclésiastiques.
À l'origine de ce mythe, un ouvrage se distingue, les Monita Secreta, les instructions secrètes. Info anonyme de 1614, décryptage. Mécanique du complotisme sur franceculture.fr et toutes les plateformes dédiées.
Il est 6h03 sur France Culture, c'est le réveil culturel de Toufik Hakem consacré à la littérature.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Réveil culturel. Et bonne semaine à vous qui nous écoutez, soit tôt le matin à la radio de 6h à 6h30, soit en différé en passant par l'écoute en ligne ou l'abonnement au podcast de l'émission disponible entre autres sur franceculture.fr. L'émission de ce matin a été préparée avec Anne-Catherine Gallet, réalisée comme d'habitude par Vincent Abouchard, avec ce matin la prise de son Alain Joubert. Et tous les lundis, dans le Réveil culturel, on parle de l'actualité des livres. Aujourd'hui, on va parler du dernier roman de Valentine Gobi, Muren, édité par Actes Sud. L'écrivaine est notre invitée ce matin.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Et c'est un drame poignant, un beau roman sur la résilience. Muren de Valentine Gobi raconte l'histoire de François Sandre qui va être à l'âge de 22 ans, la fleur de l'âge, dirait ma grand-mère, carbonisé et retrouvé quasi mort. Un chirurgien va le sauver en l'amputant de ses 2 bras et pour ne pas sombrer, François Sandre va apprendre à nager sur son dos, comme une murène. Bonjour Valentine Gobie. Donc bonjour. Déjà, on donne l'explication du titre.
Oui, alors, partiellement. La murène est un animal qui paraît souvent effrayant à ceux qui la regardent, surtout parce qu'il se trouve qu'elle a des dents acérées, une mâchoire très impressionnante. En réalité, si vous avez déjà visité un aquarium, la murène est un animal assez timide qui se réfugie dans les anfractuosités de la roche, qui a peur de se montrer, comme si elle était consciente de la peur qu'elle suscite, mais qui, dès lors qu'elle est dans son élément, dans l'eau, est un animal magnifique, somptueux même, très habile, très agile et très beau à regarder. Et c'est cette ambivalence, en fait, qui est une métaphore de ce personnage, qui est un monstre, et qui va devoir travailler à partir de ce corps neuf qu'il n'a pas choisi, pour se retrouver entier dans un autre élément, qui sera l'eau, mais qui va être aussi confronté au regard des autres, un regard qui est, c'est vrai, souvent effrayé, mais qui lui doit aussi apprendre à être altéré par ce nouveau personnage qui pose des questions à chacun sur son propre corps, son rapport aux autres, l'idée de singularité, d'identité physiologique aussi, et puis la problématique des métamorphoses.
On a deviné que cette histoire se passe en France. Ce qu'il faut préciser, Valentine Gobie, c'est l'époque, c'est les années 50.
C'est vrai. Ça se passe dans les années 50 pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai voulu m'attacher au balbutiement du handisport. Ça va être la voie de salut aussi de mon personnage que de découvrir non seulement l'eau, mais une nouvelle sociabilité dans ce balbutiement du sport pour les personnes handicapées qui commence à cette époque-là à travers des rassemblements de jeunes résistants qui souvent ont été fracassés dans les derniers mois de la guerre, mais refusent, ils sont jeunes, hein, bien souvent, refusent d'être condamnés à un corps impossible et donc défient. Défie ce corps, défie la vie, ont un esprit d'aventure extraordinaire. Donc ça m'intéressait de l'explorer. Ça m'intéressait aussi parce que dans ces années-là, ce qui arrive à mon personnage, qui est une mutilation très grave, qui serait aujourd'hui encore ce que les médecins appellent une maladie orpheline, c'est-à-dire très dur à compenser, à réparer pas du tout, à compenser très difficilement aussi, eh bien, se heurte, même si la médecine a fait de grands progrès avec l'appareillage aussi dans l'après-guerre, se heurte à des échecs très forts des équipes médicales, de la technique d'appareillage. Et finalement, voilà un personnage qui va devoir avant tout compter sur son imagination, les ressources de son intelligence, de la ruse, de l'observation, pour réinventer chaque geste de sa vie. Et donc, les déficiences du monde médical me permettent, moi, de faire de ce personnage vraiment un être romanesque, d'intelligence, et qui est obligé de se réinventer complètement.
Mais vous n'épargnez pas au lecteur le choc. Je veux dire, les premières pages, il est dans son ancienne vie, il a 22 ans, ouais. Il est robuste. C'est quelqu'un qui a un corps, parce qu'il travaille dans le bâtiment, c'est quelqu'un qui va d'ailleurs aller aider un cousin à Charleville-Mézières, et c'est là où l'accident va se produire. Qu'est-ce qui va lui arriver ?
Oui, vous le dites, il a vraiment un corps magnifique. C'est un très très beau jeune homme qui fonctionne parfaitement. Il a du sang, il a des muscles, il a de la chair. Il a choisi un métier physique, manuel. Son corps, c'est son premier outil de travail. Et on est en hiver 56, il fait très froid. Le véhicule qui l'emmène pour travailler dans une scierie va tomber en panne. Il doit demander de l'aide et il va se retrouver à monter sur un wagon d'une voie désaffectée pour essayer de repérer une gare, un village. Et il va être victime de ce qu'on appelle un arc électrique.
Exactement, puisque tous les panneaux de signalisation sont recouverts par la neige.
Oui, et il faut dire aussi, puisqu'on remonte aux années 50, on est au début de la haute tension sur les lignes de chemin de fer. Il y a deux endroits en France où cette haute tension commence à être développée, c'est dans les Alpes et dans le Grand Nord. Et donc il va être victime de ce qu'on appelle un arc électrique, qui est une brûlure extrême, pas seulement de la chair, mais de l'intérieur du corps. C'est pourquoi il est considéré comme mort. Et de fait, de toute façon, il est mort tant qu'il n'a pas choisi lui-même de vivre. Parce que le chirurgien qui le ressuscite redonne des fonctions vitales à son enveloppe corporelle, mais lui se trouve prisonnier d'un corps étranger, comme Battus cloîtré dans la pierre, dans les Métamorphoses d'Ovide, ou Lycaon cloîtré dans le loup. Il va falloir qu'il épouse ce corps pour redevenir vivant. Donc il est dans les limbes.
Et en plus, on vit avec lui ce calvaire, parce que c'est un calvaire. C'est pas seulement une expérience très dure de la vie, on se rend compte, en avançant avec lui, tout ce qu'il ne peut pas faire maintenant qu'il n'a plus ses deux bras.
C'est ça, en fait, il découvre lui-même petit à petit les impossibilités totales de son corps, et il est tout à fait aux mains des autres. C'est quelqu'un
complètement
dépendant, oui, dont le trajet c'est aussi de se réapproprier son histoire. D'abord, il souffre d'une amnésie sur 6 semaines qui lui enlève la conscience de ce qui lui est arrivé, de son accident, qui lui enlève aussi son grand amour, puisqu'il n'a plus souvenir de cette femme, et il est aux mains d'un personnel extrêmement attentif qui est auprès de lui jour et nuit.
Et heureusement qu'il a une famille aussi.
Mais c'est un corps qui ne lui appartient plus, qui est aux mains des autres. Et la famille ensuite prendra le relais de ce personnel médical. C'est quelqu'un qui ne peut pas dire « je », qui est entièrement soumis à cette dépendance totale et dont justement la trajectoire est de se réapproprier les uns après les autres, chaque geste de la vie, de choisir les lieux de sa dépendance, mais de devenir, si possible et à sa façon, autonome.
Et d'exprimer cette colère, une colère que vous exprimez d'une manière très froide, Valentine Gobi, dans Muren.
C'est-à-dire qu'il est emmuré, il n'a pas tellement les moyens de se mettre en colère, cette colère est forcément intérieure. Encore une fois, il n'a pas choisi de survivre, on lui impose en fait ce corps, le seul choix qu'il peut faire désormais, c'est de mourir. Et il y a d'ailleurs un moment clé, où il a la possibilité d'en finir, et en fait c'est la beauté qui le sauve, c'est enfin deux choses, une image magnifique, un homme dans un arbre qui décroche un cerf-volant et dont la grâce l'hypnotise, le retient au bord de ce toit dont il pourrait sauter, mais c'est surtout Nadine, qui est une infirmière extraordinaire, qui va réveiller les sensations de son corps et lui donner l'idée que peut-être justement il peut s'y raccorder, il peut se raccorder à cette chair étrangère. C'est un travail très patient, très long, mais qui va, je crois, vers la lumière.
Vous nous faites vivre ce moment dramatique en essayant d'éviter au maximum le pathos.
J'espère que... complètement même, si possible.
Non mais c'est très très dur en même temps. Et on continue à lire parce qu'on se dit qu'il va y avoir une autre vie pour cet homme. Il va y avoir une autre possibilité de trouver sa place parmi les hommes.
Oui, c'est tout le défi. Et au départ, il se trompe d'ailleurs parce que il devient donc un espèce de bricoleur génial, un inventeur fou. Il observe le monde autour de lui. Il en prend toutes les inventions pour se créer des objets qui lui permettent d'être autonome. Il utilise les ventouses qui commencent à être commercialisées. Il utilise le velcro qui vient d'être inventé. Il a une famille de couturiers qui vont pouvoir l'aider à fabriquer des objets, des vêtements adaptés.
Mais et donc néanmoins, des corps et des silhouettes.
Oui, mais néanmoins, les gestes, manger, se laver, restent aux mains des autres. Donc, petit à petit, en fait, dans cette recherche d'autonomie, il va totalement s'isoler du reste du monde. Et ça, c'est un échec. Et c'est pourquoi, finalement, ce qui va lui permettre de véritablement entrer dans le monde, en se réinventant, en étant tout à fait quelqu'un d'autre, eh bien, ça va être la pratique du sport qui lui ouvre une sociabilité, qui lui ouvre l'idée
C'est le sport ou c'est l'autrui. Le monde aquatique ?
Le monde aquatique, ça n'est pas encore l'autre. Déjà, le monde aquatique, il va découvrir une première expérience dans un lac de montagne qui se renouvelle pas, mais à travers l'observation d'une murène à l'aquarium tropical de la Porte Dorée, qui date de ces années-là, qui existe toujours, mais qui montre des animaux tropicaux, il va enfin trouver une façon de se nommer. Parce que c'est quelqu'un qu'on a du mal à nommer, on a tellement de mal à imaginer à quoi il peut ressembler. Sa mère, qui est couturière, pense qu'il ressemble à un mannequin Stockman. La sœur, qui est une enfant, sait pas très bien à quoi le relier, elle pense à un menhir, à une souche, à une saucisse, puis finit par l'appeler Stockman aussi. Et lui, en fait, ne sait pas ce qu'il est, il arrive pas à se considérer entier, et un jour la vision de cette murène lui permet de se projeter dans quelque chose de vivant. Donc c'est déjà une façon d'accepter son corps, de se sentir entier
tel qu'il est. Après des moments très durs, parce qu'on vit quand même ces moments de doute, de découragement aussi.
Oui, bien sûr. C'est un miraculé. On peut très bien comprendre sa tentation d'en finir. Ce sont vraiment les autres qui vont lui donner l'idée que il peut continuer à avancer, être regardé, compter pour autrui, c'est très important. Parce que, encore une fois, la rencontre avec l'eau, elle est primordiale, mais lorsque l'eau, ça devient une piscine et qu'autour de cette piscine, il y a d'autres personnes et que ces autres personnes-là sont d'accord pour apprendre avec vous quelque chose qui paraît impossible. Il y a évidemment la natation, mais enfin, il y a des tas d'autres activités sportives. Lui choisit la natation. Et que ce sont des gens aussi qui vous montrent qu'on peut en effet développer un réseau d'amitié, qu'on peut aimer, qu'on peut avoir une sexualité, qu'on peut travailler. Ça devient un sas, ça n'est pas un ghetto, cet univers du handisport. La grande solitude dans l'eau n'aurait certainement pas suffi à rattacher François Sandre à la vie. Il va falloir ce partage, cette relation aux autres, qui le fait entrer dans le collectif, en fait, et lui donne le sentiment de participer à la vie commune. Mais c'est un très très long chemin. C'est un très long chemin.
Puisqu'on parle de cheminement, Valentine Gobi, pour Murène, c'était quoi le point de départ?
Alors, en fait, ça fait très très longtemps que je travaille sur la question du corps et de ses métamorphoses. Je crois que dans tous mes romans, c'est la question primordiale. Et si vous me permettez...
Là, c'est pas une métamorphose volontaire, en l'occurrence.
Ça l'est rarement. Mais là, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Parce que vous évoquiez l'idée de résilience tout à l'heure. En physique, la résilience, c'est quand un métal qui a été impacté reprend sa forme initiale. François ne reprend pas sa forme initiale.
Mais il retrouve une place dans un monde qui...
Voilà. Il a dû réinventer tout. Chaque geste, son corps, sa vie au quotidien n'est plus comparable d'aucune façon à la personne qu'il était avant. On est dans une émission qui s'appelle Le Réveil Culturel. Le livre commence par un réveil. C'est le dernier réveil dans le corps d'avant. C'est la dernière journée dans son corps d'avant. Donc c'est pas de la résilience, c'est vraiment de la métamorphose. C'est-à-dire qu'il va s'appuyer sur cette tragédie pour devenir un autre, pour muter. Et je crois que là, il y a en François un peu de chacun de nous, hein, c'est vraiment la condition humaine dont nous parlons. Qu'est-ce que c'est que vivre? C'est se métamorphoser sans cesse en s'appuyant sur les obstacles et les figures d'empêchement que nous n'avons pas choisis pour assumer de nous transformer grâce à eux et à elles.
Try to remember the kind of September when life was slow and oh so mellow. Try to remember the kind of September when grass was green and the grain was yellow. Try to remember the kind of September when you were young and a callow fellow. Try to remember, and if you remember, then follow. Try to remember when life was so tender that no one wept except the willow. Try to remember when so tender that dreams were kept beside your pillow. Try to remember when life was so tender, when love was an ember about to billow. Try to remember, and if you remember, then follow.
sur France Culture, Valentine Gobi, invitée du Réveil culturel à l'occasion de la sortie chez Actes Sud de Murène, son dernier roman, ou comment votre personnage va se reconstruire après avoir perdu ses bras, après avoir connu d'abord un choc, hein, un accident, après avoir frôlé, un peu plus que frôlé la mort, revenir avec un autre corps, revenir avec une autre vision de la vie aussi. Et il y a tous ces passages où il s'initie à la natation.
Oui.
Et on a l'impression que ça va pas être possible. C'est ça.
Ah oui. Alors pour ça, il faut avoir peut-être vu les Jeux paralympiques. C'est une image, moi, qui m'a frappée, qui a déclenché le roman, même si ensuite je m'en suis écartée. Mais l'image de Zheng Tao, ce champion chinois qui, dans les Jeux paralympiques de Rio en 2016, triomphe dans toutes les épreuves. Comment il n'a pas de bras.
Oui.
Et il nage magnifiquement sous l'eau et il bondit hors de l'eau, il jaillit comme une balise avec une puissance incroyable. Et donc on sait que c'est possible, mais vous avez raison, ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque, ils ne savent pas que c'est possible. Et cet esprit d'aventure, cette foi en une chose que nous-mêmes, nous n'aurions pas cru possible, elle est très belle. C'est-à-dire que tout est invention. Quand cet homme rentre dans une piscine municipale pour la première fois, il faut déjà savoir que les gens ne savent pas beaucoup nager dans les années 50. La piscine municipale, ce n'est pas un lieu où on va régulièrement,
plus,
pas du tout.
Et en plus,
Et en plus, il y entre sans bras, ce qui terrifie totalement le maître nageur qui le voit arriver et qui a très très peur, en fait, de la responsabilité soudain qui lui incombe. Et en fait, cette apprentissage, évidemment, il y a toute la symbolique de l'eau qui est une matrice. C'est pas très original, mais c'est vrai. Je veux dire, il y a quelque chose de l'ordre d'une plénitude, d'un sentiment de plénitude qui est très profond parce que l'eau, c'est ce qui pallie au manque. En fait, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de trou. On est dans un milieu qui épouse totalement le corps. Il n'y a même plus d'espace, d'ailleurs, entre les genoux, les chevilles. Tout est un tissu plein, en fait. Et cette sensation-là, c'est la sensation pour lui d'être entier. D'ailleurs, très vite, il imagine
que... Parce que sur Terre, c'est un handicap, hein. Il n'y a pas... Ne plus avoir de bras, c'est ne plus avoir d'équilibre, ne plus pouvoir toucher, oui. Ne pas pouvoir oui. avancer.
Oui. Et du coup, ça incarne complètement ce passage, et c'est ce que m'avait suggéré très très fortement ce Zheng Tao qui jaillissait de l'eau comme ça, magnifique, c'est le passage de l'idée de manque et de déficience à l'idée d'accomplissement et de performance. C'est tout le chemin que va parcourir François, que nous parcourons tous d'une manière ou d'une autre. Nous aussi, on est plein de manques, plein d'excès. Nous aussi, nous sommes dans la démesure ou dans la béance. Mais voilà, lui va trouver dans l'eau un lieu dans lequel il est plein et qui va très vite, d'ailleurs, lui suggérer l'idée qu'une femme doit avoir cette forme-là quelque part. Alors, et donc, c'est le début de la sensualité aussi pour lui. C'est plus que la nage et la réappropriation du corps, c'est vraiment la sensualité, c'est l'accès à nouveau à la sensation douce.
Vous disiez, Valentine Gobi, que le fait de voir à la télévision les compétitions dans l'e-sport, je suppose que vous parlez des Jeux Olympiques...
Les Jeux Paralympiques de Rio, pour moi, c'était...
Oui. Oui. Est-ce que vous avez aussi questionné votre regard? Pourquoi on voit ces images?
Ah bah évidemment, je me suis d'abord rendu compte que j'y connaissais pas grand chose. C'était probablement la première fois en fait que je voyais des images vraiment en continu des Jeux paralympiques, qui étaient d'autant plus impressionnantes qu'on parle pas des épreuves d'athlétisme, on parle des épreuves de natation. Les corps sont nus, ils ne sont pas appareillés, ils sont tous exposés dans leur grande diversité. Quelque part, ça incarne de manière radicale la singularité de l'être humain, du corps humain. Qui est là extrême, mais qui est la nôtre aussi, cette grande diversité des êtres humains. Et évidemment, les premiers Jeux paralympiques dans les années 60 ne médiatisent pas du tout le corps de la même façon. D'ailleurs, il est très peu médiatisé, le corps, à ce moment-là. Et on entend beaucoup parler de médecins, de prolongement de la rééducation, d'idées que le sport est une façon d'aider les personnes handicapées à résoudre résoudre leurs problèmes urinaires. À l'époque, les gens sont en fauteuil roulant, donc ce sont des handicaps assez particuliers. Les personnes amputées n'arrivent dans les Jeux paralympiques que dans les années 70. Avant, c'est vraiment les personnes en fauteuil. Et donc, on appelle ça les Jeux du courage. Il faut entendre Léon Zitrone louer ces handicapés courageux qui arrivent à vaincre les obstacles imposés à leur corps. Ce qui est très beau aujourd'hui, même si malheureusement les gradins sont toujours pas pleins, c'est que on commence à voir des athlètes avant toute chose. C'est-à-dire des êtres entiers.
Bien sûr, et on commence à voir ces Jeux paralympiques à la télévision.
Alors c'est l'événement, le deuxième événement le plus médiatisé au monde.
Et depuis peu.
Tout à fait. C'est aussi ce parcours que j'essaie d'illustrer dans mon livre, c'est comment on est passé à une forme de normalisation. Ces gens-là eux-mêmes avaient un peu peur du ghetto dans les années 50, quand François débarque dans cette piscine et qu'il voit tous ces corps qui lui apparaissent comme extrêmement laids. Finalement, il se révolte, il trouve ça tout à fait injuste d'être obligé de fréquenter des gens aussi laids, parce qu'en fait, il peut pas se mêler aux valides. Et au départ, il a cette grande peur du ghetto, il a honte de se trouver là, et puis il va se rendre compte, d'abord il y a une place, et c'est bon aussi de pouvoir être regardé sans tricher, mais finalement c'est un sas vers le monde extérieur. Il y a la même diversité dans cet univers-là que dans le monde extérieur, simplement on est à des extrémités qui sont plus visibles. Et donc ce monde du handisport va s'ouvrir peu à peu vers l'univers des valides. Et pourquoi je termine le livre sur les Jeux de Tokyo de 1964, c'est parce que 1960 c'est la première fois, on pourrait croire que c'est une espèce d'exception, on fait plaisir aux personnes handicapées puis on n'en entendra plus parler, et à partir de 64 on sait qu'un rendez-vous va être pris tous les 4 ans et que, quelque part, ils rejoignent une pratique ordinaire, cette normalisation et, je crois, une quête.
Vous, avant d'écrire ce roman, Valentine Gobi, vous avez enquêté. Il y a toute une page, un peu plus d'une page de remerciements. Sur quoi vous avez travaillé précisément? Est-ce que c'est plus avec les médecins, avec les psychologues ou beaucoup plus sur cette période-là, et quel regard on portait sur les handicapés dans les années 50?
Sur tout ça à la fois, parce que les balbutiements du handisport sont très mal connus, donc il faut vraiment se documenter énormément, alors en bibliothèque bien sûr, essayer de trouver des personnes aussi qui ont traversé cette période-là, c'est pas simple. Ils n'avaient pas conscience qu'ils deviendraient des héros de l'histoire, donc ils sont bien cachés, ces gens, et les archives sont finalement peu nombreuses. J'ai beaucoup travaillé avec des équipes de médecins, bien sûr, et j'ai été accueillie formidablement par l'hôpital d'instruction des armées de Percy, sachant que finalement la blessure de mon personnage correspond à une blessure de type de guerre, donc c'est un hôpital militaire qui m'a accueillie avec le service des grands brûlés, de rééducation fonctionnelle. Évidemment, j'ai travaillé sur le handisport. J'ai été accueillie à la Fédération Handisport, j'ai rencontré le directeur national de natation, j'ai rencontré des athlètes âgés aujourd'hui qui ont connu une autre époque du handisport, mais aussi des athlètes récents qui sont vraiment des gens qui n'ont pas du tout peur de l'idée de performance, justement, et qui sont des héros dans leur domaine, alors que François, lui, va choisir le sport comme une façon de retrouver une place dans le monde, et pas forcément comme un but en soi, mais il y a tout à fait différentes façons de s'intéresser au handisport, comme au sport en général. Donc tout ça, c'est des milieux qui sont très différents, qui m'ont toujours vraiment bien accueilli. Et je pensais pas passer autant de temps à l'hôpital, ça fait finalement plus de la moitié de mon livre, à cet univers-là, parce que j'imaginais que, comme aujourd'hui, des blessés aussi sérieux étaient plongés dans le coma. Or, c'est une pratique récente, et il a fallu que mon personnage traverse en conscience tout ce moment, en fait, de l'hôpital qui dure des mois. Et donc, j'ai découvert un univers que je soupçonnais pas devoir visiter. C'était passionnant.
Le réveil culturel de Tufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Muren, le dernier roman de Valentine Gobi, est édité chez Actes Sud. Merci beaucoup d'être passé ce matin à nous en parler.
Merci de m'avoir reçu.
Et bonne journée sur France Culture, on se retrouve demain à la même heure.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées de Jacques Munier et les enjeux internationaux de Julie Gacon. France Culture, l'esprit d'ouverture.
Informer, découvrir, décrypter, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Un parti est né, le piquettisme. Thomas Piketty, l'économiste, poursuit dans Capital et Idéologie son combat contre les inégalités. Et vous, vous en pensez quoi, Thomas Piketty? Et dans les matins de France Culture, ce lundi.
Les matins de France Culture, ce lundi dès 7h et sur franceculture.fr.
Forêt, Poulenc, Duruflé, trois grands classiques de la musique vocale française. Un programme idéal pour le cœur de Radio France, emmené par sa directrice musicale Martina Batic. Le dimanche 20 octobre, à 16h, à l'auditorium de Radio France. Réservation maisondelaradio.fr. Entrez au cœur du concert.
Vous êtes sur France Culture. Tout de suite, le journal de 6h30 avec Sophie Delpont.
Bonjour à tous. Le débat sur l'immigration se tient aujourd'hui à l'Assemblée nationale, sujet ultra sensible qui divise aussi fortement au sein de la majorité, nous dira Rosalie Lafarge. Après l'attaque de la préfecture de police de Paris, alors que l'assaillant présentait bien des signes de radicalisation islamiste, Christophe Castaner sera auditionné demain par la délégation parlementaire au renseignement. Nous entendrons Christian Cambon, le président de cette délégation. Dans ce journal, nous irons aussi en Tunisie où seulement 40% des citoyens ont voté hier pour les élections législatives. Et puis l'affaire Karachi devant la justice. Aujourd'hui, le procès s'ouvre 17 ans après l'attentat qui avait fait 15 morts dans cette ville au Pakistan. C'est un sujet ultra sensible qui sera débattu aujourd'hui à l'Assemblée nationale, l'immigration. Un débat voulu par Emmanuel Macron. Les échanges s'annoncent explosifs, pas seulement du côté de l'opposition. Au sein de la majorité aussi, le sujet divise, Rosalie Lafarge.
Les marcheurs auront du mal à parler d'une seule voix aujourd'hui.
Je suis pas complètement sereine.
Pas sereine, Cécile Rilhac, la députée du Val d'Oise, redoute ce débat.
Cela peut entraîner des discussions qui amènent à monter les uns contre les autres et donc qui fassent le lit du Rassemblement National. Il y a véritablement dans ce débat la possibilité de prendre de la hauteur, de se poser les vraies questions, à savoir comment est-ce qu'on traite les questions d'immigration d'une manière générale, c'est-à-dire que c'est pas simplement en France, au niveau européen, mais au niveau mondial.
Nous n'avons pas le droit de ne pas regarder ce sujet en face, a lancé le président Emmanuel Macron devant les députés LREM il y a 3 semaines, mais chacun au sein de la majorité a sa façon de le regarder en face, ce sujet. Delphine Bagary est députée des Alpes de Haute-Provence.
Arrêtons de stigmatiser et dire que c'est un problème. C'est une richesse, c'est une chance. Et on veut le dire aussi, on veut le porter. Politiquement, on veut le porter.
Avec plusieurs de ses collègues, elle a signé 2 tribunes mi-septembre pour mettre en garde face à l'hystérisation des débats et la nécessité de préserver l'aide médicale d'État. Et s'il partage cet avis, Olivier Véran, député de l'Isère, prône tout de même la tenue de ces échanges.
Je pense que l'immigration est une chance, mais qu'il faut en parler. À force de ne pas en parler, on finit par mettre un espèce de voile honteux sur la question. Donc, d'un débat sur l'immigration peuvent émerger beaucoup de choses. Un discours positif sur l'immigration est une chance pour notre pays, un discours de restriction qui dit attention, comment est-ce qu'on est capable d'accueillir les gens aujourd'hui. C'est tout cela dont on doit débattre.
Le président du groupe, Gilles Legendre, a nommé plusieurs orateurs au sein de la majorité pour ce débat. Parmi eux, Aurélien Taché et Stella Dupont, 2 députés de l'aile gauche, et ça fait grincer des dents en interne. Si on se laisse diriger par notre minorité, siffle une marcheuse de la première heure, on finira comme le PS.
Le débat commencera à 16h dans l'hémicycle avant de se tenir au Sénat mercredi. Un sujet au cœur du journal des idées de Jacques Munier dans moins de 10 minutes, juste après ce journal. Christophe Castaner sera auditionné à huis clos demain sur les dysfonctionnements qui ont mené à la tuerie de la préfecture de police de Paris. L'employé qui a tué 4 de ses collègues jeudi était radicalisé selon les éléments confirmés par le parquet national antiterroriste. Cette audition du ministre de l'Intérieur sera menée par la délégation parlementaire au renseignement. Le tueur a-t-il pu transmettre des renseignements à l'extérieur, par exemple? C'est le genre de question que compte poser le président de la délégation, Christian Cambon.
À quelles données sensibles, secrètes, confidentielles, confidentielles défense, cet agent de maintenance informatique a eu accès? Parce que si vous êtes agent de maintenance informatique, je ne suis pas spécialiste de la discipline, mais vous rentrez dans des disques durs, vous rentrez dans des logiciels, vous pouvez accéder au contenu. Il faudra qu'on nous précise s'il y a eu des doubles clés, des sécurités supplémentaires qui permettent à un agent de maintenance de pas être en contact avec les données sensibles. Vous pourriez avoir des listes d'un certain nombre d'agents et puis surtout quelle utilisation il a pu en faire. parce que là aussi, ça pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions et qui sont des questions très graves, car la délégation parlementaire au renseignement, elle s'occupe de la sécurité de nos agents, du bon fonctionnement des agents de renseignement, et ce sont ces dysfonctionnements que l'on va essayer d'identifier avec le ministre.
Christian Cambon répondait à Cyril Graziani. Les auditions des futurs commissaires européens reprennent aujourd'hui à Bruxelles. Les eurodéputés font passer un grand oral à chacun des membres de l'équipe d'Ursula von der Leyen. Après la pugnacité des questionnements de la semaine dernière, les échanges s'annoncent musclés, Marie-Pierre Véraud.
Josep Borrell, le futur monsieur diplomatie de l'Union, entendu ce matin, devra sans doute répondre à quelques questions concernant sa condamnation pour délit d'initié. Et la Française Sylvie Goulard, qui n'a pas réussi son premier oral, doit passer l'écrit avant, si elle ne convainc toujours pas les eurodéputés, de devoir se soumettre à une nouvelle audition, sans doute ce jeudi. Les questions écrites, nombreuses et précises, la somme notamment de répondre par oui ou non sur son intention de démissionner si elle devait être mise en examen dans l'affaire des emplois présumés fictifs du MoDem. Pour rappel, deux commissaires, hongrois et roumains, ont été recalés en raison de conflits d'intérêts. Trois autres au total, outre Sylvie Goulard, le polonais à l'agriculture et la suédoise aux affaires intérieures, dont les prestations ont été jugées très faibles, ont reçu une série de questions écrites. Des réserves ont été exprimées envers l'aspirante à l'égalité et le futur commissaire au commerce. Enfin, celui chargé des migrations et de la protection du mode de vie européen a lui su convaincre les députés, mais il demande toutefois que l'intitulé de son portefeuille soit revu par la présidente de la Commission. Les trois vice-présidents, Dombrovskis à l'économie et au social, Vestager au numérique et à la concurrence et Timmermans au Green New Deal, vont à leur tour passer sur le grill demain, mardi, pour une majorité de futurs commissaires. Le chemin s'avère bien plus rude que prévu.
Le procès de l'affaire Karachi ouvre aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. Le 8 mai 2002, dans cette ville du Pakistan, un attentat faisait 15 morts, dont 11 employés français de la direction des chantiers navals qui travaillaient à la construction de sous-marins vendus au Pakistan autour de soupçons d'un présumé financement illégal de la campagne électorale d'Edouard Balladur en 1995 via des rétrocommissions. Et si ce procès a lieu, aujourd'hui, c'est grâce à l'obstination des familles de victimes, insiste leur avocat Olivier Maurice, interrogé par Florence Turme.
Depuis le début, nous avons indiqué que nous étions en présence d'une affaire d'État. On n'a pas voulu nous croire. On a voulu même se moquer des familles des victimes. Je vous rappelle que certains disaient que tout cela était une farce ou que, de toute manière, les faits étaient prescrits. Aujourd'hui, ces procès vont s'ouvrir et je crois que s'ils permettent de connaître un peu mieux la vérité sur ce qu'il s'est passé, ils vont démontrer à tout le moins que nos mœurs politiques étaient des mœurs qui ne correspondaient pas aux règles de droit, au respect de ces règles de droit, et qu'on sait depuis bien longtemps que tous ces contrats d'armement servent en réalité à financer des partis politiques, à financer des campagnes présidentielles. Et tout cela est dommageable parce que on se demande, face à cette situation, ce que le justiciable ordinaire peut en penser. Face à cette tragédie que vivent les familles des victimes, eh bien, on se dit tout de même d'une certaine manière que la justice est parfois fort démunie par rapport à toutes ces pratiques.
L'ancien Premier ministre Édouard Balladur et l'ancien ministre de la Défense François Léotard seront jugés ultérieurement devant la Cour de justice de la République. Au Portugal, la victoire du Premier ministre socialiste sortant, António Costa, aux élections législatives hier. Selon des résultats quasi définitifs, avec près de 37% des suffrages, sa formation obtiendrait 106 sièges remportés sur les 230 que compte l'Assemblée. Sans majorité absolue pour autant, mais un seul allié pourrait suffire. Le bloc de gauche s'est déjà dit bien disposé hier soir. Alors qu'en Tunisie, 60% des citoyens ne sont pas allés voter hier pour les deuxièmes élections législatives depuis la révolution de 2011. Si les sondages à la sortie des urnes se confirment, les islamistes l'emportent devant le parti de l'homme d'affaires emprisonné Nabil Karoui et devant les partisans de l'ancien régime. Un scrutin douloureux pour la société civile tunisienne. À Tunis, c'est un reportage de Maureen Mercier.
Pour la société civile, c'est un coup d'assommoir. Les islamistes des Nardins, même s'ils perdent presque la moitié de leur siège, seront la principale force du Parlement, suivie du parti de Nabil Karoui, candidat à la présidentielle, surnommé le Berlusconi tunisien, en prison soupçonné de blanchiment d'argent et de fraude fiscale. La troisième place revient à celle qui se revendique de l'héritage de Ben Ali, Habir Moussi. Fresh Fenich, expert international en droits de l'homme et activiste au sein de la société civile tunisienne, tente d'encaisser la nouvelle.
Bon, j'espère qu'ils ne vont pas se mettre tous les trois d'accord pour constituer un gouvernement d'escrocs. Les trois partis ne représentent pas les aspirations du peuple tunisien, ne répondent pas aux demandes de la révolution. Ils sont en train de reproduire le même modèle de développement qui a échoué pendant 23 ans, le clientélisme, le népotisme et l'intérêt personnel.
Si les Tunisiens se réveillent aujourd'hui avec un Parlement qui ne leur ressemble pas, c'est parce qu'ils se sont, pour une grande majorité, abstenus de voter pour sanctionner la classe politique. Un choix qui risque de se retourner contre eux.
Je ne pense pas que la classe politique a reçu le message. La jeunesse n'est pas contente, n'est pas satisfaite. Et ceci est très grave pour les prochaines années. Parce que cela pourra provoquer la création ou l'émergence de mouvements contestataires très violent et automatiquement il y aura une confrontation.
La Tunisie suspendue aux résultats définitifs qui doivent tomber d'ici mercredi.
Maureen Mercier. La météo, alternance de soleil et d'éclaircies en majorité aujourd'hui, de la pluie sur la Bretagne et sur l'Alsace. Les températures moyennes sont comprises ce matin entre 12 et 21 degrés avec 12 degrés à Lille, 14 à Paris et 21 degrés à Marseille. Il est 6h40 sur France Culture, le journal des idées.
Vous avez de l'avance, Sophie Delpont.
Oui, bonjour Jacques Munier.
Bonjour Sophie.
Le journal des idées consacré ce matin au débat parlementaire sur la politique migratoire de la France qui a lieu cet après-midi à l'Assemblée nationale.
Oui, oui. Et le site d'Alternative économique publie pour l'occasion un article très documenté de Xavier Molena sur l'immigration, qui souligne le haut degré d'instrumentalisation politique de la question dans notre pays. Comment, dans ce contexte, faire entendre par exemple que les immigrés représentent à tout casser 4% de la population mondiale, ou encore que c'est en Asie et non en Europe qu'ils sont les plus nombreux, et qui pourra rappeler, sans être accusé de faire un déni de réalité, qu'ils sont souvent dans leur ensemble plus diplômés que la population du pays qui les accueille. Devant la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, François Héran, le titulaire de la chaire Migrations et Sociétés au Collège de France, a rappelé le 17 septembre dernier que le nombre de titres de séjour alloués est passé de 193 000 en 2005 à 253 000 en 2018, donc une augmentation de 31%, après avoir longtemps oscillé aux alentours de 200 000, une augmentation qui provient essentiellement de l'explosion des titres délivrés aux étudiants pour moins d'un an, 83 000 en 2018. Toutefois, ce chiffre reste très inférieur à celui de la Grande-Bretagne qui accueille entre 200 et 250 000 nouveaux étudiants chaque année. Par contre, la migration pour motif familial a reculé de 24% sur la période suite au durcissement successif de la législation. Comparé à ses voisins européens, la situation de la France n'a rien d'exceptionnel. Dans certains pays, la présence d'immigrés est certes moins forte, mais en Allemagne, au Royaume-Uni ou en Espagne, elle l'est davantage. Partout, cependant, les habitants surestiment cette proportion, et particulièrement en France. Encore faut-il relativiser. D'après le Centre d'observation de la société avec l'IFOP, le pourcentage de Français se déclarant tout à fait d'accord avec l'idée qu'il y a trop d'immigrés en France est beaucoup plus faible qu'on ne l'imagine, se situant généralement entre 20 et 25 points depuis 10 ans, et il aurait plutôt tendance à baisser ces dernières années. Courrier International relaie un article du Corriere et des Lacerres sur l'accord conclu le 23 septembre par la France, l'Italie, l'Allemagne et Malte pour un mécanisme de répartition des migrants, le roulement des ports d'accueil sur la base du volontariat et la fixation d'un délai de 4 semaines pour la répartition des réfugiés constituent un accroc au règlement de Dublin qui stipule que le pays dans lequel a été formulée la demande d'asile est celui qui doit en répondre, un principe qui pénalisait grandement l'Italie. C'est un premier pas, estime Goffredo Buccini, qui relève cependant que l'accord ne concerne que les migrants qui ont été secourus par les bateaux des ONG et de l'armée, et non ceux qui ont débarqué de manière autonome. Or, sur les 14 mois qu'a duré le premier gouvernement de Giuseppe Conte, ces débarquements autonomes de canaux pneumatiques, de bateaux à voile, de coquilles de noix ont représenté 91% des arrivées, même s'ils ont été largement passés sous silence par une propagande salvinienne focalisée sur quelques dizaines de désespérés secourus par les ONG. Autrement dit, si Salvini, qui passait son temps à étriller l'Union européenne, a relocalisé environ 4% des migrants, la nouvelle vague du gouvernement Conte 2 pourrait est arrivé à grand renfort d'embrassades et de promesses d'entraide à en répartir 9%. L'autre pays européen largement pénalisé par sa situation géographique à cet égard, c'est la Grèce. Dans Le Monde, Marie Jégot et Julia Pasquale ont mené l'enquête sur l'île de Lesbos au bord de la rupture. C'est le sort des mineurs non accompagnés qui est le plus préoccupant. Ils sont 4400 en Grèce, dont près du quart à Lesbos. Présidente de l'ONG d'aide aux mineurs Metadrassi, Laura Papa dénonce les interminables procédures pour obtenir un regroupement familial. Et dans la clinique pédiatrique de MSF qui jouxte le camp de Moria, on mesure les effets de l'abandon. La rupture familiale, c'est un traumatisme de plus, souligne Elena Delia, psychologue et psychanalyste au centre Primo Levi à Paris, dans le nouvel hebdo de La Croix. Elle évoque un fort sentiment de culpabilité chez les migrants qui ont perdu leurs enfants ou leurs proches en chemin. La séparation a beau s'être faite dans un contexte dramatique et totalement subi, ils se sentent néanmoins responsables. Marie Boëton signe un article poignant sur le bureau des retrouvailles de la Croix-Rouge qui s'emploie à réunir les familles dispersées, souvent séparées par les passeurs pour faire monter les enchères. Qui ne paierait pas même un coût exorbitant pour revoir les siens ? Elles ne se sont pas préparées à cette éventualité, comme ce père afghan à la recherche de ses jumeaux d'à peine un an, déposant sa requête sans grand espoir. On avait le sentiment qu'il voulait enregistrer ses enfants quelque part et faire exister in absenti ces deux petites ombres. Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux internationaux aujourd'hui, le gouvernement irakien face aux manifestations qui ont éclaté il y a 6 jours.
Et depuis mardi dernier, le face-à-face quotidien entre manifestants et forces de l'ordre à Bagdad et dans d'autres villes irakiennes a fait 104 ou 112 morts selon les sources et plus de 6000 blessés. Aux revendications des Irakiens défilant dans les rues contre la corruption, le chômage qui touche particulièrement les jeunes, contre la faillite de l'État en général, le gouvernement du Premier ministre Adel Abdel Mehdi, en place depuis bientôt un an, a répondu ce week-end par l'annonce d'une vingtaine de mesures sociales, la hausse des aides aux familles en difficulté, la construction de 100 000 logements, des programmes de formation professionnelle, ce qui n'a pas dissuadé les Irakiens de défiler dans les rues hier encore. Bonjour Myriam Benrad. Bonjour Myriam Benrad, est-ce que vous êtes avec nous ce matin ?
Oui, bonjour.
Politologue, chercheuse associée à l'IREMAM, l'Institut de Recherche et d'Études sur les Mondes Arabes et Musulmans associé au CNRS. Merci beaucoup d'être avec nous. Myriam Benrad, le gouvernement irakien a-t-il les moyens de tenir les engagements qu'il a pris hier ?
Non, pas dans l'immédiat. Et c'est bien pour cela que les manifestations vont, à mon avis, continuer. Parce que ces mesures, elles répondent certes aux revendications qui sont exprimées par la rue, mais elles ont été annoncées depuis très longtemps déjà. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement fait des promesses aux jeunes, au niveau des services publics, de leur rétablissement, au niveau de la question du chômage qui est une des principales revendications, sur le plan aussi de la lutte contre la corruption qui est un fléau depuis de nombreuses années. Tout cela n'est pas une nouveauté et ce gouvernement en réalité n'a pas non plus les moyens objectifs de prendre en main une situation qui dépérit depuis autant d'années. Même s'il l'avait annoncé en 2018, on voit bien que la première année de ce gouvernement a été désastreuse et qu'aucune action crédible n'a été mise en œuvre.
Il y a une époque pas si lointaine, Myriam Benrad, où on pensait, et notamment les faucons américains qui en 2003 ont d'abord imposé une guerre puis une rupture politique, le state building, on pensait que la manne pétrolière allait quasiment instantanément favoriser le développement économique. qu'aujourd'hui, vous le dites, la corruption est un mal endémique en Irak. Est-ce que la rente pétrolière est quand même peu à peu distribuée de façon de plus en plus équitable depuis le temps que les gouvernements successifs promettent de lutter contre cette corruption et contre le clientélisme ?
Oui, c'est un point important parce que l'Irak est en effet un pays riche en hydrocarbures qui donc détient une rente pétrolière, des revenus très conséquents issus de cette rente et qui aurait dû utiliser ces derniers en priorité pour la reconstruction, pour améliorer les conditions de vie de sa population, pour réallouer un certain nombre de budgets justement aux postes qui sont aujourd'hui évoqués par les manifestants, à commencer encore une fois par le rétablissement des services élémentaires, des infrastructures, etc. Et tout cela n'a jamais été fait. En fait, la corruption n'était pas d'ailleurs un phénomène historique en Irak. Elle a vraiment pris une ampleur jamais vue à partir précisément de 2003, de la chute du régime de Saddam Hussein, de cette guerre qui a été désastreuse, d'ailleurs qui a été aussi gérée de manière désastreuse par les Américains eux-mêmes. Et donc, on n'a pas une gouvernance depuis cette date qui est une gouvernance qui permet, encore une fois, de répondre aux attentes d'une population qui, elle, depuis plus de 15 ans, est aux abois, qui survit tant qu'elle le peut. Et peut-être un dernier point, ces manifestations, ce sont des manifestations jeunes qui aussi visent une élite politique vieillissante et qui, du fait de cette incapacité, est considérée aujourd'hui comme étant incapable de représenter qui que ce soit. Donc il y a aussi un phénomène générationnel, un rejet des élites corrompues, incompétentes, enfin tout ce que je viens de mentionner.
Elles sont nombreuses encore aujourd'hui, les élites qui sont arrivées avec ou soutenues par les Américains en 2003, essentiellement la diaspora irakienne qui est revenue au pays à ce moment-là. Ils représentent quoi dans le gouvernement aujourd'hui ?
Ils sont pas les seuls, mais il n'y a pas eu beaucoup de renouvellement de la classe politique, ça c'est certain. Et il est vrai que les figures au pouvoir, en tout cas les principales figures, en dehors peut-être de personnalités comme Muqtada Assad ou d'autres leaders plus jeunes, beaucoup des personnalités qui tiennent encore les rênes sont des membres, en effet, de l'ancienne opposition à Saddam Hussein en exil, qui par ailleurs étaient des personnalités coupées de l'Irak depuis très longtemps lorsqu'elles sont revenues, et qui depuis souffrent d'un fort déficit de légitimité, de crédibilité, qui ont vieilli en 15 ans et qui, encore une fois, plus la population rajeunit, puisque c'est quand même une population très jeune, sans compter l'explosion démographique que connaît l'Irak, et bien plus ce phénomène va s'accentuer, plus l'Irak sera jeune, plus ces jeunes vont vivre dans ces conditions, donc grandir dans ces conditions, moins ces élites, à mon avis, ont d'avenir devant elles.
Vous citez Myriam Benrad, le dignitaire chiite à la fois charismatique et adoré des Irakiens, Muqtada al-Sadr. Sa coalition a d'ailleurs 4 ministres au gouvernement. Au départ, c'est pas lui qui est à l'origine de ces manifestations, mais il a fini par appeler ses partisans à manifester. Quelle place occupe-t-il aujourd'hui dans ce mouvement ? On sait que Muqtada al-Sadr est investi depuis longtemps dans un mouvement civil qui demande des réformes avec une ligne anticonfessionnelle. Alors, c'est pas laïque comme on l'entend ici, mais qui voudrait qu'on arrête de parler du découpage ethno-confessionnel de l'Irak chiite, sunnite, kurde. Est-ce qu'aujourd'hui la mobilisation telle que vous la voyez, vous l'observez, dépasse les clivages communautaires habituels ?
Oui, très largement. C'est une mobilisation, comme je l'ai dit, de la rue, des jeunes. Donc ça concerne essentiellement aujourd'hui la capitale et les provinces chiites, mais on a eu des manifestations de ce type aussi en 2012-2013, par exemple, précisément avant l'arrivée des djihadistes au pouvoir dans les provinces sunnites. Concernant Muqtada al-Sadr, il a un capital de sympathie qui s'est quand même largement réduit depuis les dernières élections, qu'il avait certes remportées. Mais il les avait remportés précisément autour de la promesse d'un changement radical, d'une mise à plat du système qui n'est jamais advenu. Il essaie aujourd'hui de récupérer la contestation. C'est pas la première fois non plus qu'il tente de mobiliser autour de ces manifestations. Il l'a fait par le passé. Mais je me demande s'il est très crédible. En tout cas, il n'est pas perçu comme tel par une partie de la contestation qui considère que, au-delà de ses promesses populiste, au-delà de son positionnement nationaliste, au-delà de ses appels à un état civil, il a en réalité échoué lui aussi à changer les choses. Donc je ne crois pas qu'ils jouissent aujourd'hui, en tout cas, du même capital de sympathie qu'en 2018.
Alors c'est un de ceux qui, depuis longtemps, rejette à la fois l'ingérence iranienne, mais aussi l'ingérence américaine en Irak. Est-ce que l'Irak, aujourd'hui, est aussi victime de ce conflit qui s'envenime et qu'il dépasse entre, d'un côté, l'Iran et, de l'autre, les États-Unis, qui, en quelque sorte, sont ses deux parrains à l'Irak ?
Oui, c'est le cas d'ailleurs depuis 2003, c'est-à-dire que la guerre américaine en Irak, elle a au niveau régional profité essentiellement à l'Iran, qui n'a cessé depuis d'étendre son influence et qui est devenu un acteur majeur. On l'a vu avec la lutte contre l'État islamique, avec la mobilisation d'un certain nombre de chiites, avec la présence des forces iraniennes elles-mêmes sur le territoire irakien pour lutter contre les djihadistes, sans compter le fait que les Iraniens adoubent tout gouvernement en Irak, rien ne se fait sans l'aval du régime iranien. Donc l'Iran est un acteur de poids en Irak, pas seulement d'ailleurs sur le plan politique, c'est un acteur économique et social très important également. Et pour autant, les Irakiens ont une aspiration à la souveraineté, une aspiration à s'affranchir de cette tutelle. Ça vaut aussi pour les Américains, on en parle moins aujourd'hui, mais on a eu des réflexes de rejet assez forts au cours des dernières années de cette présence avec un certain nombre de forces chiites notamment qui appelaient au départ immédiat des États-Unis. Donc il y a une aspiration en tout cas clairement parmi une bonne partie de la population aujourd'hui, je pense, au retour de l'Irak, à sa souveraineté, au retour au nationalisme, puisqu'il y a quand même de forts accents nationalistes aussi dans ces manifestations.
Myriam Benrad, si l'Irak a bien voulu laisser l'Iran, en tout cas l'aider à se mobiliser contre Daesh, comment cette guerre, et pour conclure, comment cette guerre menée par et contre l'État islamique de 2013 à 2017 a bouleversé et bouleverse encore aujourd'hui la société irakienne et peut-être est une des causes qu'il faut, en tout cas un des facteurs qu'il faut prendre en compte pour expliquer les mobilisations d'aujourd'hui.
L'État islamique bouleverse, je dirais, l'Irak depuis très longtemps, parce que si on remonte en réalité aux origines de ce groupe, il est apparu au début de l'occupation américaine, à mesure qu'une insurrection armée s'est étendue dans le pays contre la présence étrangère, qui a en fait déjà à cette époque pris pour cible les représentants de l'État post-bassiste, ces mêmes représentants aujourd'hui qui sont visés. L'État islamique a participé, je dirais, de la propagation continue de la violence dans ce pays. Il n'est pas le seul, on peut citer quand même beaucoup d'autres acteurs, même si l'État islamique, en l'occurrence, est le plus violent, a été le plus violent, le plus brutal. En même temps, si on considère la dimension irakienne du phénomène, l'État islamique, c'est un produit de cette occupation, de cette longue guerre, de ces deux décennies d'élabrement. Vous parlez de mobilisation sociale, c'est un mouvement social, au-delà de son idéologie, c'est un mouvement qui a recruté aussi sur ses promesses sociales, sur sa promesse de lutter contre la corruption, etc.
Merci beaucoup Myriam Benrad. On est obligé de conclure. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle le titre de votre livre consacré à l'Irak, le dernier en tout cas, l'Irak par-delà toutes les guerres, idées reçues sur un état en transition au cavalier bleu. Et puis plus récemment, Djihad, des origines religieuses à l'idéologie, idées reçues sur une notion controversée également au cavalier bleu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente l'exposition « De l'amour » au Palais de la Découverte. Une exploration en territoire amoureux, un parcours au cœur du lien, à la croisée des sciences, de la société, de l'art et des nouvelles technologies, qui questionne sur la place de l'amour et de l'attachement dans notre vie.
L'amour, c'est lié au désir.
S'il y a bien une personne qui m'a toujours aimé, c'est ma maman.
La beauté est à l'origine de tout cela.
De l'amour, une exposition au Palais de la Découverte à Paris du 8 octobre au 30 août 2020. Un partenariat France Culture.
À 6h57, c'est l'heure de vous retrouver, Guillaume Erner, bonjour.
Mais bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
Pour votre humeur du jour, il faut en finir, dites-vous, avec la fidélité.
Oui, la carte de fidélité, Julie. Et je sais d'ailleurs que vous les refusez, les cartes de fidélité, car qui n'a pas subi aux caisses la malhonnête proposition d'accepter une carte de fidélité qui, moyennant l'abdication de toute vie privée au profit de Carrefour ou de Leclerc, va vous permettre, à échéance 2050, de bénéficier d'une ristourne sur vos achats de coton-tige. Eh ben, le Figaro d'aujourd'hui vous explique pourquoi la loi alimentation empêche les distributeurs de faire les promotions qu'ils veulent entreprendre, d'où cette volonté de contourner la loi en passant par des cartes de fidélité. Car seule la carte de fidélité permet aux grandes enseignes de persévérer dans la débauche de promotion avec les produits les plus souvent en promu, lesquels, c'est le Figaro qui me l'apprend, sont les flageolets en conserve et les aliments humides pour chiens. Auparavant, si vous nourrissiez exclusivement de flageolets et de pâtés pour chiens, vous pouviez faire de sacrées bonnes affaires. Aujourd'hui, c'est fini. Il vous faut donc une carte de fidélité, autrement dit collecter des points et devenir une banque de données pour Carrefour, Leclerc, etc. La carte de fidélité est le retour de l'inquisition par d'autres moyens, une manière particulièrement peu française d'envisager la consommation, car depuis Zola, au moins, consommer ne peut s'envisager sans penser aux zones érogènes du consommateur. Souvenez-vous du Bonheur des Dames, ce grand magasin porteur d'une promesse de nouveaux plaisirs, cette perspective de sortir avec, écrit Zola, la volupté assouvie et la sourde honte d'un désir contenté au fond d'un hôtel louche. La carte de fidélité est une manière d'injecter du puritanisme dans ce qui relevait jusqu'ici de la licence pure et simple. La carte de fidélité, ce sont les liaisons dangereuses, réécrites par la Manif pour tous. Auparavant, les promotions nous promettaient une forme de sadisme, battre le système, s'offrir grâce au journal du hard discount sa part de fétichisme des objets. La carte de fidélité voudrait en finir avec le vagabondage matériel, avec cette pornographie du hard discount, car ne l'oubliez pas, la pornographie et le supermarché partagent une étymologie commune. La pornographie vient du grec pernénaï, autrement dit vendre.